Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren.
C'était le 13 mars 2013, il y a 10 ans déjà.
Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Eh oui, qui connaissait François Bergoglio, ancien archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, élu 266e pape, successeur du pontife démissionnaire Benoît XVI. Il choisit de se prénommer François en référence à François d'Assise, saint patron des pauvres. Alors c'est vrai que si Benoît XVI tutoyait la France, François semble l'ignorer, ce qui est toujours le cas, même s'il fera une étape à Marseille en septembre prochain, alors que Charles III, pourtant futur roi d'Angleterre, lui réservera son premier voyage malgré la défaite du 15 de la Rose à Twickenham ce week-end. Alors vous allez me dire que je fais des associations bizarres, mais c'est vrai qu'il y a une forme de tutoiement entre la France et l'Angleterre qui a peut-être disparu entre l'Église de Rome et puis la France. Bref, on ne va pas épiloguer en apparaissant le 13 mars 2013 au balcon de la basilique Saint-Pierre, dépourvu d'ornements liturgiques. Jorge Bergoglio avait immédiatement rompu avec son prédécesseur, même si évidemment il y aura des lignes de continuité. Sévère critique du néolibéralisme, il allait déplacer le curseur vers la justice sociale, l'écologie ou l'inlassable défense des migrants. Ce sont quelques-uns des points que nous allons d'ailleurs discuter ce matin avec des personnes qui ont ausculté ce 10e anniversaire, ou plutôt ces 10 ans de pontificat, à commencer par Laura Morosini qui est avec nous, directrice des programmes Europe du mouvement Laudato Si. Bonjour Laura Morosini.
Bonjour.
L'originalité de votre mouvement, c'est qu'il est né justement de la présence du pape François et surtout de l'encyclique. C'est rare, il faudrait peut-être d'ailleurs regarder dans l'histoire ce qu'il est jamais advenu de ce point de vue-là. C'est rare qu'un mouvement soit né d'une encyclique.
Oui, cette encyclique était attendue, il faut dire. Ça faisait plusieurs années qu'on
on est en 2015 à l'époque.
Sur l'écologie, oui. On a cru à un moment donné, avec Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, qu'il y avait une partie écologique assez importante, mais ce n'était pas la grande encyclique sur l'écologie attendue. Et François l'a sortie, et une quinzaine de mouvements, de diocèses, de congrégations de par le monde, surtout dans l'hémisphère sud, se sont dit c'est le bon moment de nous réunir. Et de donner vie, de faire vivre et de faire connaître ce texte magnifique qui est né en juin 2015.
Et alors le pape est alors aux Philippines et c'est par Skype que se font les choses.
Oui,
c'est racontez-nous.
Un mouvement qui a commencé de manière digitale. Ces organisations existaient, des organisations franciscaines aux États-Unis, des organisations jésuites, des caritas, du diocèse de Manille. C'est très beau, tous ces pays du Sud ou de l'Europe, c'est vrai, n'y était pas beaucoup. Mais des pays surtout qui vivaient l'impact du changement climatique de manière très forte, et en particulier aux Philippines où il y a eu ce typhon Haiyan en 2013 qui a vraiment dévasté les choses. Et les évêques des Philippines ont été très très en avance. Aujourd'hui encore, leur déclaration est considérée comme la plus audacieuse en matière d'écologie, leur lettre pastorale. Et donc, toutes ces congrégations et ces diocèses se sont réunis par Skype et se sont dit on va s'unir et on va faire quelque chose ensemble. Et la première chose en fait qui a été décidée, comme 2015 c'était l'année de la COP21 à Paris, donc la France n'est pas tout à fait absente, c'est ça la première action du mouvement Laudato Si, c'est de se dire les catholiques doivent être présents dans les négociations internationales, et présents visiblement, et présents en force. Et donc, ils ont lancé une grande pétition mondiale de catholiques sur le climat, d'où le nom initial, comme le mouvement a été créé avant la sortie de l'encyclique, c'était Mouvement catholique global pour le climat. Et donc, un million de... Alors que le mouvement n'existait même pas, un million de catholiques ont signé une pétition qui a été remise à l'époque à la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le climat, là, en décembre de 2015 à Paris, et à François Hollande. Voilà, un million de pétitions catholiques pour demander que la Convention si elle existe, parce que ce n'était pas du tout évident à l'époque qu'un accord serait signé, inscrivent dans son texte qu'il fallait rester en dessous des 1,5 degré d'augmentation de la température du globe. Je rappelle que le débat à l'époque était un peu entre cet objectif qui semblait impossible et 2 degrés. Et la différence entre l'un et l'autre, c'est la disparition des îles Fidji, par exemple, pour donner un exemple très concret.
Voilà, Laura Morosini, vous représentez en fait la pensée du pape en action, si on doit un petit peu l'aspect opérationnel ou plutôt les conséquences de sa pensée sur l'action politique. Et c'est aussi à ce titre-là que vous êtes là ce matin en studio pour nous parler donc de ce 10e anniversaire du pontificat du pape François. Avec nous également Frédéric Mounier, journaliste ancien correspondant à Rome du journal La Croix entre 2009 et 2013 et qui publie une biographie du pape François intitulée sobrement « Le pape François ». Une vie aux presses du Châtelet. Bonjour Frédéric Mounier.
Ça.
Alors Frédéric, est-ce qu'on vous entend bien? Vous êtes avec nous
oui,
ce matin.
Oui, je suis là. Voilà. Pour ma part, je vous entends très bien.
Bon, bah, écoutez, tout va bien. Alors Frédéric, dites-nous un petit peu, parce que vous étiez à Rome jusqu'en 2013.
Oui, c'est cela, oui.
Et donc vous avez assisté évidemment à l'élection du pape François.
Oui, alors j'ai assisté d'abord à la fin du pontificat de Benoît XVI, qui, comme vous le savez, Louis, a été une fin compliquée. Les scandales se sont multipliés, scandales financiers, des documents avaient été volés sur le bureau du pape. Enfin, on sentait bien que Benoît XVI était absolument épuisé. Et donc j'ai d'abord vécu cette renonciation du pape Benoît, qui a été un coup de tonnerre absolument incroyable et qui nous a tous beaucoup presque traumatisés à Rome. Et puis ensuite, donc, après le conclave, ce pape a été élu. Ça a été un immense étonnement, puisque tous, en salle de presse du Vatican, lorsque nous avons vu arriver la fumée blanche, eh bien, nous étions tous persuadés que le pape élu serait le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan. Et du reste, la conférence épiscopale italienne a publié par mégarde, à ce moment-là, un communiqué de félicitations. Et puis, donc, on a entendu le cardinal Jean-Louis Torrent, que vous avez diffusé tout à l'heure. Et ça a été un immense étonnement. Je me souviens que j'étais en salle de presse aux côtés du jésuite Antonio Spadaro, rédacteur en chef de la Civiltà Cattolica, cette grande revue jésuite qui est publiée avec le Vatican. Eh bien, il me disait lui-même, peu avant de voir apparaître le cardinal Bergoglio sur la loggia, il me disait « Jamais Bergoglio ne pourra être élu, il nous faut un homme jeune, un homme en bonne santé, un homme polyglotte et un homme qui aime voyager. » Et le pape et le futur pape ne présentent pas beaucoup de ces caractéristiques-là. Et donc, tout le monde a été vraiment profondément étonné. Chacun a senti qu'une nouvelle page s'ouvrait dans l'histoire de l'Église.
À l'époque, Frédéric Mounier, il y avait trois papabilis. Il y avait le cardinal italien, donc Angelo Scola, le cardinal brésilien, Odilo Scherer, donc ça aurait pu aussi être un homme d'Amérique du Sud, archevêque de São Paulo, et puis Marc Ouellette, l'ancien archevêque de Québec.
Oui, mais on a su après que lors des tours de vote au conclave, la candidature du cardinal Scherer, qui était soutenue par la curie, a été assez vite mise de côté. Et Marc Ouellette, très vite, a compris qu'il avait peu de chance. Oui. Donc, il s'est lui-même retiré.
Ce que je veux dire, c'est que les trois sélectionnés, Frédéric Mounier, venaient d'Amérique quand même.
Oui, c'est vrai. Mais voilà. En fait, ce qui a fait la différence, ça a été pendant ce qu'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire ces rencontres de cardinaux qui ont précédé le conclave, ce qui a fait la différence, ça a été les 3 minutes et demie de prise de parole du cardinal Bergoglio, pendant lesquelles il a expliqué ce qui est en fait son programme de pontificat, c'est-à-dire l'importance donnée aux périphéries, l'importance donnée aux pauvres, et le fait que l'Église ne doit pas se considérer comme sa propre référence et que l'Église doit être tout entière tournée vers l'évangélisation. C'est cela qui a fait basculer le Sacré Collège vers cette élection.
Laura Morosini, vous, où étiez-vous en 2013, en ce 13 mars 2013? Est-ce que le cardinal Bergoglio, est-ce que son nom vous disait quelque chose à l'époque?
Pas du tout. Après, bon, je ne suis pas une experte en papable, mais ce qui est certain, c'est que dès que j'ai entendu ce choix du prénom François, je me suis tout de suite renseignée. Mais quel François s'agit-il et voilà, il y avait tout de suite cette double orientation, les pauvres et notre sœur la Terre. Et le pape le dit lui-même dans un film qui est sorti il y a quelques mois, La Lettre. il dit dans mon cœur, il y a eu cette référence à François en se disant notre terre ne va pas bien dans sa relation avec les pauvres et notre société ne va pas bien et notre société ne va pas bien dans sa relation avec la terre.
Est-ce à lui qu'on doit le terme d'écologie intégrale ?
Alors, écologie intégrale avait déjà été utilisée précédemment par Jean-Paul II. Un chapitre entier de Laudato Si se centre sur ce terme. Donc il y a une meilleure définition du terme, même si ça reste encore quelque chose en construction, en chantier.
Le sujet écologique est advenu avec le pape François, même si d'autres papes en avaient parlé.
Vraiment, depuis Paul VI, on a vraiment une multitude, dès qu'on cherche. Moi, ça me touche parce que c'est la question que je me suis posée au début des années 2000 en me disant, mais est-ce que il faudrait que ça serait bien qu'il y ait quelque chose sur l'écologie dans l'Église catholique ? Et puis, je me suis dit, il faudrait chercher des personnes pour écrire des beaux textes et tout. Et puis, j'ai cherché. En fait, il existait des dizaines de textes, des dizaines de discours. Paul VI à la FAO, l'agence onusienne pour l'alimentation, au début des années 70, a fait un grand discours pour dire qu'on courait à la catastrophe écologique. Il utilisait ces mots-là, déjà, Paul VI. Mais c'était quelque chose d'éparpillé. Et donc, le chrétien, le paroissien de base.
En fait, ce n'était pas médiatisé.
Les curés, même, dans les séminaires, c'était pas médiatisé, mais c'était pas étudié non plus, donc c'était pas connu. Et le fait d'avoir un texte clairement, une encyclique sociale, mais une encyclique sociale alertant sur l'état de notre maison commune et ce qu'on peut faire aussi, et qui analyse la situation, ça c'est vraiment une nouveauté, et une nouveauté qui a été reconnue comme telle très fortement.
Frédéric Mounier, ce 13 mars 2013, donc, le pape François, Jorge Bergoglio, arrive donc sur le siège de pierre. Ce que vous soulignez d'ailleurs en introduction de votre livre, Frédéric Mounier, c'est que on ne mesure pas, nous autres Français, à quel point pour l'Italie, ça a pu être un traumatisme de voir arriver au Vatican un pape non italien. Ça, c'est quand même une dimension très importante.
Et oui, parce que le Vatican, comme vous le savez, se trouve en terre italienne et que le souverain pontife, il faut prendre ce terme à la lettre, le souverain pontife a régné pendant plusieurs siècles sur un territoire équivalent à peu près au tiers du territoire italien.
Oui.
Et que donc le Vatican est en Italie une puissance. C'est une puissance financière, c'est une puissance d'opinion, c'est une puissance spirituelle, une puissance idéologique. Les Italiens, assez facilement, sont portés à considérer que le Vatican est leur chasse gardée. Et donc, il faut se souvenir, par exemple, que pour ce conclave, parmi les cardinaux, il y avait 6 cardinaux venant de Lombardie, c'est-à-dire qu'une seule région italienne focalisait à elle seule plus de suffrages que bon nombre de pays catholiques dans le monde. Donc il y a encore un peu, aujourd'hui, un déséquilibre fondamental, mais il faut jamais perdre de vue ce tropisme italien dans le regard qu'on peut porter sur le Vatican, aussi bien dans le fonctionnement, dans le fonctionnement bureaucratique, dans l'attention aux titres, l'attention aux éléments extérieurs. Ce sont des éléments très italiens. Et donc le pape venu du Sud est venu bousculer ses habitudes de vie et ses habitudes de fonctionnement.
On sait donc que le 18 juin 2015, le pape François publie sa deuxième encyclique Laudato Si consacrée à l'écologie. Ça, c'est quelque chose d'identifiable. Et d'ailleurs, Laura Morosini, vous témoignez aujourd'hui de ce texte et donc du fait qu'un mouvement ait été créé à la suite de ce texte. Concernant la réforme de la Curie, Frédéric Mounier, on a l'impression chaque fois qu'on en parle comme ça, sans voir exactement vers quoi la chose peut déboucher. Est-ce que vous, qui avez été au Saint-Siège, il y a en 10 ans des choses qui ont énormément changé au Vatican?
Oui, il y a des choses qui ont changé. Il faut savoir que les difficultés de fonctionnement de la Curie étaient l'une des raisons pour lesquelles Benoît XVI avait renoncé. C'est-à-dire qu'une certaine forme d'opacité financière, une certaine forme d'absence de caractère opérationnel, d'absence d'efficacité, une certaine forme de petits arrangements entre amis, de clanisme familial, tout ça, c'était des freins à la volonté de gouvernement de Benoît XVI. Et donc, François a été élu justement pour lutter contre tout cela, pour remettre de l'ordre dans la Curie. Alors, il l'a fait il a poursuivi l'œuvre de Benoît. Benoît avait déjà commencé très nettement un plan d'assainissement financier, par exemple. François a continué. On peut dire qu'aujourd'hui, le Vatican n'est plus un paradis fiscal. Et puis, François a fait intervenir des cabinets de consultants américains, par exemple, pour que l'organisation soit enfin efficace, pour que les différents dicastères se parlent entre eux, pour que des objectifs soient fixés, pour que les responsables puissent avoir des entretiens annuels avec leurs supérieurs hiérarchiques, pour que l'organisation puisse enfin fonctionner. Alors, les choses sont allées, il faut bien le dire, beaucoup plus lentement que prévu. C'est vrai que François, dès son élection, a suscité beaucoup d'espoir dans beaucoup de domaines, et que donc il a fallu du temps, et il a fallu notamment presque 10 ans pour aboutir à la publication de cette nouvelle constitution apostolique, Praedicate Evangelium, qui est vraiment un nouveau mode d'emploi de la Curie et plus largement de l'Église universelle, parce que François a beaucoup consulté et François s'est heurté aussi à beaucoup d'inertie.
Et que diriez-vous que cette constitution nous apporte, si on doit la résumer en un mot, quel est son apport le plus manifeste, Frédéric Mounier ?
Moi, je dirais que l'apport le plus manifeste de cette constitution, c'est la déconnexion entre l'ordination et le pouvoir de gouvernance. C'est-à-dire que le pape nous explique qu'un certain nombre de fonctions, y compris parmi les plus importantes dans l'Église, comme par exemple le gouvernement de différents dicastères, c'est ce qu'on appelle les dicastères à Rome, c'est l'équivalent des ministères dans un gouvernement en France, eh bien que ces tâches de gouvernement peuvent être confiées à des laïcs, pourvu qu'ils soient compétents, qu'ils soient hommes ou femmes, alors que jusqu'à présent, ces fonctions étaient réservées à des hommes et à des hommes ordonnés, soit ordonnés prêtres, soit consacrés évêques.
Voici pour l'une donc des principales innovations survenues au Vatican en 10 ans. Il y a évidemment quantité d'événements, de déclarations qui jalonnent ce 10e anniversaire du pape François et qui, si on remonte dans le temps, méritent d'être commentées. On va essayer de prendre l'année 2013. Le 8 juillet 2013, à Lampedusa, porte d'entrée des migrants africains en Europe, le pape François fustige la mondialisation de l'indifférence. On sait qu'en 2016, il ramènera 12 familles, dont 3 musulmans du camp de migrants de Lesbos en Grèce. Ça avait suscité quelques crissements à l'époque parce que c'était des musulmans et pas des chrétiens qui étaient par ailleurs persécutés au Proche-Orient. Que diriez-vous des premiers gestes du pape François, de la première image qui est celle, on va commencer avec vous Laurent Morosini, qui est celle du pape François à Lampedusa. Lampedusa, c'est le nom français de Lampedusa, Laurent Morosini.
Oui. Qui d'ailleurs rappelle beaucoup ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Cutro, au sud de l'Italie, où des migrants viennent de se noyer tout près des côtes, dans l'indifférence du
gouvernement. C'est tous les jours.
Oui. Le fait d'y aller, d'avoir le courage d'aller comme ça dans quelque chose qui a vraiment attiré beaucoup plus l'attention, je ne sais pas, ça serait intéressant de voir le nombre d'articles qu'il y avait avant Lampedusa et après Lampedusa sur ce drame, où on rappelle qu'en Méditerranée, on a eu jusqu'à 10 000 morts en une année de noyade. Hein. Le pape a dit que c'est devenu un cimetière, la Méditerranée, c'est terrible. Donne aussi un ton d'un style du pape François qu'on retrouve dans Laudato Si et dans beaucoup d'expressions orales, où il laisse parler le cœur. Et ça, voilà, on a des papes qui sont des grands théologiens, des grands penseurs qui écrivent, etc. Mais il y a ce style qui, je pense, touche une génération et touche beaucoup de gens et qui est si important aussi en matière d'écologie, de se dire, c'est pas que des connaissances froides, c'est pas que de la réflexion du cerveau, mais on a aussi à laisser parler nos sens et à se dire, ça me choque, ça me coupe la respiration, ça me brise le cœur. Et il utilise ce genre de mots. Et dans Laudato aussi, par exemple, à un moment donné, il parle de faire sienne la souffrance de la création, la souffrance de notre sœur, mère, la terre. C'est un vocabulaire très franciscain, en fait. Et du coup, voilà, l'attention à ces migrants, l'attention à l'hospitalité, qu'on peut lier aussi aux questions des réfugiés climatiques. Voilà, en se disant, voilà, une des catastrophes qu'amène le changement climatique, c'est d'obliger des millions de personnes à quitter leur maison, à quitter leur terre, parce qu'il fait plus de 50 degrés chez eux, parce que tout est inondé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc, on doit à la fois secourir ceux qu'ils vivent, ceux qui sont les victimes, mais à la fois prévenir aussi, en faisant le nécessaire pour baisser radicalement les émissions de gaz à effet de serre au niveau politique. Et il réunit chaque année les dirigeants des entreprises, des multinationales de l'énergie. Le pape François, c'est quand même quelque chose assez exceptionnel en leur disant, si la civilisation a besoin d'énergie, l'énergie ne doit pas détruire la civilisation. Enfin, il leur dit quand même, il parle aux chrétiens de base, au clergé, à la curie réforme, mais aussi aux dirigeants du monde économique, qui ont autant de pouvoir, voire plus parfois que les dirigeants politiques.
Frédéric Mounier, sur ce style du pape François, ainsi que le dit Laura Morosini, le cœur plutôt que la tête, avec une communication aussi très libre qui a pu en désarçonner aussi certains?
Oui, alors tout à fait, cet homme s'exprime avec le cœur. Je voudrais rappeler sur la question des migrants que le pape est lui-même originaire d'une famille de migrants italiens en Argentine qui ont migré donc entre les deux guerres et que, évidemment, cette origine compte énormément pour lui. Alors le pape s'exprime avec le cœur. Il dit souvent c'est comme je le sens. Voilà. Alors de fait, il y a une certaine imprévisibilité dans les déclarations du pape, voire dans certaines de ses décisions, et cela de fait sème un certain trouble, au moins ces derniers temps au Vatican. Beaucoup sont assez perplexes sur le mode de gouvernement du pape François. Il faut prendre ça en compte. Sachant que c'est multiplié par le fait qu'il a lancé donc un appel, comme vous le savez, à la synodalité, c'est-à-dire qu'il a mis en marche un processus en quelque sorte de consultation du peuple de Dieu, et que face à la difficulté de cette consultation qui peut tout à fait, comme toute consultation, partir dans tous les sens, la parole du pape François est attendue, et une parole inattendue qui est imprévisible, c'est parfois compliqué, donc il faut être très attentif à l'actualité de ce qui peut se passer à Rome pour essayer de comprendre et de déterminer une véritable ligne de ce pontificat.
Rome, c'est ma dernière question, Frédéric Mounier, réponse rapide s'il vous plaît. Rome reste un cœur, un centre, un poste d'observation important avec le pape François. On s'était posé la question sur la fin du pontificat Benoît XVI.
Oui, parce que comme vous le savez, l'Église catholique universelle est la dernière institution religieuse au monde à être régulée depuis un centre. Vous avez 1,3 milliard de catholiques et c'est à Rome que ça se passe. Même si Rome, finalement, c'est une petite chose, hein, il n'y a jamais que 3,000 personnes qui travaillent au Vatican pour réguler cet immense édifice ecclésial. Et donc, il faut être extrêmement attentif à ce qui se passe à Rome pour comprendre. Et la vraie question qui va se poser à l'avenir, c'est la question du maintien de la communion. À partir du moment où le pape donne la parole aux différentes églises, comment les contradictions peuvent-elles être résolues à l'intérieur de l'Église? C'est ça le principal défi du pape François pour l'avenir.
Une question qui se pose notamment en écho au chemin synodal allemand. Merci Frédéric Mounier d'avoir été des nôtres ce matin autour de cette biographie, Le pape François, une vie, aux presses du Châtelet. Vous êtes journaliste, ancien correspondant du quotidien La Croix à Rome de 2009 à 2013. Laura Morosini du mouvement Laudato Si. Reste avec nous.